Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h42, Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Benoît Hamon.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
À moins de 15 jours de la présidentielle, en effet, vous êtes le premier candidat que nous recevons. Tous seront comme vous sur RTL avant le premier tour. Merci à vous d'être dans ce studio d'RTL. Un mot d'abord de la déclaration de Marine Le Pen hier au grand jury RTL Le Figaro LCI. La France n'est pas responsable du Veldiv. Elle a raison de prendre le contre-pied du président Chirac qui, en 1995, reconnaissait la responsabilité de l'État dans cette race. Ou elle dérape ?
Non, elle n'a pas raison. Elle n'aime pas l'histoire, je pense qu'elle l'arrange. Elle l'arrange parce que la responsabilité de la France est évidente. Il n'y avait pas un soldat allemand pour prêter main forte aux policiers et à la milice et opérer cette rafle du Veldiv. La réalité, c'est que le président de la République, Jacques Chirac, avait fait un choix qui était un choix important, en rupture avec ce qui avait pu être dit auparavant et que moi je l'approuve et c'est le sens de l'histoire que de reconnaître la responsabilité.
Mais est-ce que c'est un hasard que Marine Le Pen le dise maintenant, à 15 jours de la présidentielle? Est-ce qu'il y a une intention derrière, finalement, d'avoir
si
une certaine filiation avec des propos paternels?
Je ne sais pas si c'est calculé, mais en tout cas, si on doutait que Marine Le Pen est d'extrême droite, on ne peut plus en douter. Moi, je dis une chose très simple. Moi, je ne cherche pas à faire peur aux électeurs qui veulent voter Marine Le Pen. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas peur de Marine Le Pen. Ils n'ont pas, d'ailleurs, pour beaucoup, leur choix est déjà fait. Je leur dis juste une chose. L'extrême droite, quand elle a été portée au pouvoir par les urnes, a rarement rendu le pouvoir par les urnes. Et il faut toujours se poser la question, le bulletin de vote, c'est souvent la dernière arme qu'on a, le dernier pouvoir de changer son propre destin comme celui de la nation.
De ce point de vue, il y a une banalisation du FN dans cette campagne.
Si vous donnez ce pouvoir-là à l'extrême droite, vous n'êtes pas certain qu'elle vous le rende un jour dans une nouvelle élection. Il faut juste se dire ça. C'est simple, c'est un choix qui est souverain, démocratique, mais il faut savoir toujours que quand on donne le pouvoir par les urnes à l'extrême droite, on n'est pas certain que l'extrême droite rende au peuple ce pouvoir-là ensuite.
Alors cette campagne, Benoît Hamon, ne vous réussit pas complètement, c'est le moins qu'on puisse dire avec notre sondage Kantar-Sefraisse-Winepoint. Jean-Luc Mélenchon s'installe, vous l'avez vu, à la troisième place devant Fillon, et surtout il creuse l'écart avec vous, 9 points, il est à 18 et vous à 9. Comment vous expliquez ce spectaculaire trou d'air ?
Écoutez, c'est pas une campagne facile, je le reconnais, c'est pas une campagne facile, et en même temps, moi je veux continuer à parler transition écologique, pauvreté, questions sociales, pouvoir d'achat, travail, comme je l'ai fait, et je continuerai à le faire.
Pourquoi il n'est pas facile ?
Parce qu'il y a le bilan d'un quinquennat, parce qu'il y a...
Qui vous plombe en l'occurrence en tant que candidat socialiste ?
Incontestablement, ça pèse. Et qui ne voit pas que l'électorat de gauche est déçu. Il a été déçu par la déchéance de nationalité, par la loi travail, par l'échec sur le chômage. Et ça pèse incontestablement.
Au point
Non, c'est pas.
Au,
c'est pas
au point que Mélenchon vous siphonne. Est-ce que c'est
attendez,
l'esprit des électeurs de gauche ?
Je continue mon raisonnement. Et puis après, il y a des défections nombreuses. Quand tous les jours, vous avez le feuilleton de ceux qui s'en vont, c'est quand même pas facile à gérer. C'est pas tant que moi je le gère mal. C'est que ce sont nos électeurs qui se disent mais à quoi bon, finalement, regarder vers ces gens s'ils sont aussi déboussolants et déboussolés. Et incontestablement, il y a un côté poison permanent que d'organiser les défections. Donc moi, j'en prends acte et je fais campagne. On aurait pu rêver campagne plus simple à mener. Sur le fond, je reste convaincu que ce que je dis sur ce qui se passe, la nécessité de changer de modèle de développement, nos modes de production, nos modes de consommation, la nécessité de penser les mutations du travail et de réfléchir à la protection sociale que l'on veut pour les 5, 10, 15, 20 ans, la nécessité de moraliser la vie publique. Je proposerai d'ailleurs, ce sera le sens de ma conférence de presse aujourd'hui sur les 100 premiers jours, une vraie loi de moralisation de la vie publique qui s'inspire beaucoup des démocraties scandinaves. Je pense que sur ces questions-là, il faut continuer à avancer parce que ce sont les questions essentielles. Voilà.
Vous vous remettez en cause vous-même ou pas ?
Mais toujours, vous savez, quand vous êtes en campagne, les journalistes sont là pour le faire à votre place. Et si vous vouliez l'ignorer...
Ah nous, on pose des questions, mais vous répondez quoi à cette question déjà ?
Je réponds à toutes les questions qui me sont posées. C'est chaque jour un engagement à 100%, sinon 200%. Et vous interrogez toujours la qualité de ce que vous dites, la qualité de votre performance, entre guillemets, indiscutablement. Bon, vous savez, je ne suis pas de ceux qui cherchent à échapper à mes responsabilités. Et je ne l'ai jamais fait. Et quand j'ai jugé qu'il fallait partir d'un gouvernement, je suis parti d'un gouvernement. Quand j'ai jugé qu'il fallait prendre mes responsabilités et m'engager, je l'ai toujours
fait.
Mais
vous croyez que les électeurs, parce que c'est vrai que vous l'avez beaucoup dit au début de la campagne, les électeurs vont choisir un programme. Vous pensez que ça va être le cas d'après, comme vous voyez aujourd'hui évoluer la campagne
on peut se poser la question. Et effectivement, il y a beaucoup d'électeurs qui sont dans le vote utile sans doute pas à eux, sans doute aux candidats pour qui ils voteront, mais pas à eux, sont dans le vote contre. Et moi, j'ai essayé de me parler en disant votez pour vous. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer de se faire du bien, entre guillemets, c'est-à-dire d'améliorer votre propre vie. Et le projet que j'ai porté, il porte des réponses sur les conditions d'existence de nos propres enfants. Et moi, je considère que ces questions-là sont centrales dans une élection présidentielle. Mais juste d'un mot, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, au risque de ne pas être en phase avec les figures imposées de la Ve République, qu'il ne fallait pas voter pour une personne dont on suppose qu'elle concentre le génie de la nation en elle et qu'elle serait la solution au problème des Français. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Parions donc sur l'intelligence collective et un projet. Et je crois sincèrement que mon projet est vraiment le meilleur pour la France.
Juste pour finir là-dessus, mais par exemple, les électeurs nombreux qu'on interroge qui disent « Mais Mélenchon, c'est un bon tribun, il parle bien, il me touche ». Vous dites « Regardez le programme derrière », vous dites quoi ?« Oui, il a du talent, c'est incontestable ».
Mais moi, chacun des candidats a sans doute du talent, sinon il ne serait pas à la place qui est la sienne.
Bah, il en a un particulier.
Oui,
hein.
Mais bon, si on élit quelqu'un pour son talent, ce talent risque de vite s'en fatiguer, parce que ce qu'on lui demandera après, à lui comme aux autres, c'est de réduire le chômage, c'est de réduire les inégalités, de réduire la pauvreté, d'assurer que nos entreprises créent de l'emploi, de faire en sorte que demain la démocratie respire.
Et là-dessus, son programme ?
Non, je dis que ça ne peut pas reposer que sur le talent et le génie d'un homme, et que s'il n'y a pas une profondément...
Bah vous dites quoi aux électeurs qui vont chez Mélenchon ?
Mais je leur dis, votez pour. Si vous regardez le projet politique qui est le mien...
Ils ont l'impression de voter pour avec Mélenchon.
Je ne suis pas là pour faire contester les motivations des électeurs. Moi, je défends un projet. Je ne leur demande pas de voter contre les autres, je leur demande de voter pour eux-mêmes. Et en votant pour eux-mêmes, si l'on regarde et étalonne les projets, ils verront que le projet politique qui est le mien, il s'intéresse aux Français et à leurs enfants, ce qui n'est quand même pas tout à fait neutre pour les 20 ans qui viennent.
Je pose une hypothèse sur la table. Le revenu universel, il a marqué, il a dominé, il a renouvelé le débat à un point qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps, c'était à l'automne dernier. Même les candidats de droite à la primaire se positionnaient pour ou contre le revenu universel de Benoît Hamon. Et puis, vous l'avez rendu plus réaliste, sans doute pour répondre aux critiques sur son coût faramineux. Il est devenu assez peu universel. Il est
19 millions de Français qui voient leur pouvoir d'achat augmenter.
Mais il n'est plus universel.
C'est pas mince quand même.
Il n'est plus universel.
En fait, vous êtes sincère,
vous pouvez reconnaître. Et d'ailleurs, vous l'avez fait évoluer. Par exemple, vous n'avez pas perdu quelque chose, vous n'avez pas perdu votre âme qui fait que les électeurs ne vous situent plus maintenant.
J'avais dit que c'était en plusieurs étages. Je propose un premier étage réalisable, réaliste, 35 milliards d'euros qui seront injectés dans l'économie sous la forme d'une augmentation de pouvoir d'achat.
Le deuxième étage dans votre programme, c'est je réunirai ensuite une conférence
Madame
sociale.
Madame Martichoux, 400 euros de plus pour quelqu'un qui est au SMIC mi-temps. Vous allez me dire que ça ne va pas changer la vie d'une aide-soignante dans une maison de retraite. 200 euros de plus pour quelqu'un qui est à SMIC à plein temps. Ça ne va pas changer un peu ou améliorer les conditions d'existence de quelqu'un qui travaille dans les abattoirs en Bretagne. Si, c'est ça qui m'intéresse. 600 euros quand on n'a rien pour un étudiant, ça va changer concrètement leurs conditions d'existence et ça injecte de l'argent dans l'économie. Donc oui, ça a un impact social. Le reproche que moi je peux faire à cette élection, c'est justement qu'en dehors du revenu universel, il y a assez peu de propositions qui essayaient d'imaginer ce que devait être la protection sociale de demain, vu que le travail évolue, que les contrats sont de plus en plus courts, qu'on ne sera pas toujours salarié, mais parfois travailleur indépendant, auto-entrepreneur, qu'on n'ait pas eu cette discussion-là, et à part sur le revenu universel, et qu'au bout du compte, finalement, quels que soient les candidats, on réfléchisse en fonction du logiciel d'avant. Et c'est ça qui, à mon avis, prépare mal la France au défi de l'avenir. C'est que, gauche ou droite, si on réfléchit en fonction des batailles d'avant, du logiciel d'avant, eh bien, nous risquons de rater quelques grands tournants, dont celui de la transition écologique et de la mutation du travail.
On ne va pas y passer la journée, mais reconnaissez que votre revenu universel, il n'est plus universel comme il l'était au début.
Il le sera à la fin. Mais Madame Martichoux, non, je ne dis pas cela.
Non,
sauf que dans mon projet,
il y a
toujours, Madame Martichoux, si vous relisez ce que j'ai sur mon site internet, j'ai toujours dit que le revenu universel, il serait en plusieurs étapes, au-delà même du quinquennat. On m'avait même reproché, on m'avait dit, mais alors votre projet, il est pour les 10 ans.
Vous n'avez pas toujours dit ça.
Mais j'ai toujours dit ça. Mais écoutez, que c'était.
J'essaierai de le faire avant la fin du quinquennat.
Sérieusement, vous êtes. Soit on est sérieux là-dessus. Moi, je sais, j'ai travaillé sur ces questions depuis le début. Donc, oui, j'ai toujours dit que c'était une fusée à plusieurs étages. La première. le premier étage, il est pour le 1er janvier 2018. Il améliore le pouvoir d'achat de 19 millions de Français. Trouvez-moi un projet qui
sur le site de Benoît Hamon, vous verrez, il y a un simulateur qui vous permet de savoir
exactement.
Si vous faites partie des 19 millions de Français bénéficiaires de cette allocation universelle plus tard. Sur le nucléaire, une clarification, Benoît Hamon. J'ai entendu un député bourgeois, Philippe Baumel, qui vous accompagnait au Creusot, vendredi, et qui a dit ceci pour vous défendre. Mais on se trompe sur le programme de Benoît Hamon, on le présente comme anti-nucléaire, alors qu'il se place dans la continuité du quinquennat.
Sur la loi de transition énergétique, oui, mais je vais au-delà de la loi de transition énergétique. Ouais. La chronologie prévue par la loi de transition énergétique sur la fermeture des réacteurs en fin de vie, je la prends, mais ce que je propose, c'est que nous allions faire une étape supplémentaire jusqu'à la sortie du nucléaire
en 2050. Mais en 2050.
En 2050.
En 2050.
Ce qui veut donc dire que nous sommes aujourd'hui sur une chronologie que je reconnais, celle qui a été mise en œuvre par la loi de transition énergétique. Et
quelle leçon vous tirez de ce scénario? En 5 ans,
je vais vous dire ce que
je vais...
D'abord qu'il y a une ministre, Ségolène Royal, qui défend la parole politique et le poids de la parole politique et des engagements du président de la République, et un président d'EDF qui a tout mis en œuvre pour que cette parole politique ne soit pas respectée.
Entreprise à 83% public.
Si je suis président de la République, je peux vous assurer que la gouvernance d'EDF changera. Ça n'est pas possible aujourd'hui que le ministre de l'Environnement ou de l'Énergie se soit
vous
dans les faits...
Vous changerez en faisant comment
dans les faits,
il y a un conseil d'administration d'EDF, il y a des règles, elles ont été respectées,
et le résultat, c'est que le gouvernement a fait ce qu'il voulait. Public, on repassera à 100% de capital public. Mais ce que moi je souhaite, c'est qu'on ne se retrouve pas dans la situation où un président d'EDF manœuvre dans le dos de la ministre. Et moi, je soutiens à 100% Ségolène Royal dans la décision qu'elle a prise de publier le décret de fermeture de Fessenheim. D'abord, il faudra travailler à la reconversion des salariés, mais ça n'est pas acceptable qu'on se le dise aujourd'hui, qu'un président d'entreprise publique manœuvre contre une ministre.
Donc vous prendriez des sanctions
ou je n'ai pas une problème de sanctions, je me moque de savoir si
l'entreprise soit 100%
si et monsieur Lévy, la réalité c'est qu'il doit aujourd'hui il y a une ministre, il y a un gouvernement et à ce que je sache monsieur Lévy n'a pas été nommé au gouvernement.
Quelques questions rapides, vous avez dit que Emmanuel Macron, son élection serait un marchepied pour le Front National.
J'ai dit que les politiques...
Qu'est-ce que ça veut dire? Si la France choisit Macron, elle choisira Le Pen à coup sûr?
Je pense que... Regardez une chose. Partout où on ferme un bureau de poste, le Front National augmente de 10% à l'élection qui suit dans la commune. Partout où on a réduit les services publics, réduit la dépense sociale, diminué le nombre de fonctionnaires, fragilisé les salariés, l'extrême droite est montée. Quand j'ai rencontré Angela Merkel, c'était le cœur de notre discussion. Comment aujourd'hui, je lui dis, il faut arrêter ces politiques d'austérité, elle nous prépare l'extrême droite.
Conduit au Front National, Emmanuel Macron, c'est une forme d'austérité.
La poursuite des politiques libérales, qui en clair, ne s'adresse qu'aux gens qui vont bien, en espérant que si les gens qui vont bien s'ils vont mieux demain, ça servira à tout le monde. Je ne crois pas à cette fameuse théorie du ruissellement selon laquelle, à partir du moment où vous enrichissez les riches, tout le monde ira gober quelques
donc
gouttes.
Donc l'appel ou vote utile, c'est reculer pour mieux sauter et c'est Le Pen à coup sûr en 2020.
Je pense qu'il faut extirper le Front National des têtes et pas simplement espérer s'acheter un délai supplémentaire.
Première chose que vous faites si vous êtes qualifié au premier tour.
Une loi de moralisation de la vie publique, la revalorisation des minima sociaux, comme aujourd'hui une nécessité. Il me semble que la pauvreté aujourd'hui est une des grandes exclues de ce débat présidentiel.
C'était plus personnel comme question, je la pose en négatif. Si vous n'êtes pas qualifié, la première chose que vous faites?
Si je ne suis pas qualifié, la première chose que je fais? Une bonne sieste. Et ce sera pour le 8 mai qualifié en me disant comment est-ce que je pense à la passation de pouvoir avec François Hollande.
Et on verra quelles sont les deux hypothèses, celle qui sera la plus réalisée le 23 avril. Merci beaucoup Benoît Hamon.
Merci Elisabeth Martichoux.